l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 22 janvier 2021, 11h en live pour cette émission L'Hebdo des Régions avec notre partenaire, la Fédération des promoteurs immobiliers. Je suis ravie de co-présenter cette émission avec mon cher Christophe Bordet. Bonjour.
Bonjour, merci de me retrouver.
Mais je suis ravie, je trouve qu'on est bien tous les deux.
Ben on est pas mal.
On est pas mal.
On est pas mal. On espère en tout cas.
On espère. Ouais. Alors avec nous aujourd'hui pour cette émission donc sur la promotion, le secteur de la promotion en partenariat, je le rappelle, avec la FPI, nous avons des invités de qualité et nous partons en Centre-Val de Loire. Mais avec qui, cher Christophe ?
Écoutez, beaucoup d'invités autour de la table, effectivement. Yvain Leroy-Liberge est avec nous, président de la FPI Centre-Val de Loire. Bonjour et merci beaucoup d'être là, directeur général Sully Immobilier. Également avec nous, Olivier Henry, vice-président de la FPI Centre-Val de Loire en charge du Loiret. Bonjour à vous. Vous êtes également président de l'Observatoire du logement Océlor, adjoint de direction de l'innovation et du logement Crédit Agricole Centre-Loire et puis directeur général des filiales immobilières. Tiens, un petit mot avant d'aller plus loin. Océlor, c'est quoi en deux mots, Olivier Henry ?
Bonjour à tous. Donc, Océlor, c'est l'observatoire du logement neuf en région Centre-Val de Loire, aussi bien pour la promotion immobilière que pour la maison individuelle en terrain à bâtir.
Bon, on va en parler évidemment ensemble dans cette émission. Et puis Bruno Père, directeur d'agence Marignan Centre-Val de Loire, est également avec nous. Bonjour mon cher Bruno Père.
Bonjour.
Et merci d'être là. Et au programme, il y a beaucoup de choses à dire.
Hein. Eh bien oui, sans plus attendre, on va démarrer. On va vous parler aujourd'hui donc, du marché, de ce marché de la région Centre-Val de Loire, avec les trois villes principales. Tours, Orléans, Chartres, un petit peu. On vous parlera des tensions de marché dans le contexte Covid, dont on ne cesse de parler. Quelques chiffres aussi pour alimenter un peu tout ça, savoir ce qu'il en est de 2020. On est début 2021, faire un petit récap de ce qui s'est passé sur l'année écoulée. On parlera un peu de la loi Pinel. Et espérons qu'on aura le temps de parler de la ville et de sa construction ou reconstruction. Voilà, on va essayer d'aborder un petit peu toutes les problématiques qui touchent au secteur de la promotion. Je propose de démarrer tout de suite avec le mot du président et on accueille Yvain Leroy-Liberge après ce jingle.
L'hebdo des régions avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Et c'est parti avec vous, monsieur le président. Je crois que vous aviez plusieurs sujets chauds à nous soumettre.
Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, j'ai plein de sujets chauds, ou en tout cas intéressants à échanger avec vous. Mais avant tout, je voulais vous présenter un peu la fédération et expliquer qui on est. Donc, la fédération, c'est des promoteurs immobiliers, c'est la FPI qui regroupe à peu près 500-600 entreprises sur le territoire national pour un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros et à peu près 170 000 logements produits par an. Ça représente 2% du PIB, pour l'avoir en tête. Et si jamais on se rapporte à notre région, c'est à peu près une vingtaine de promoteurs, c'est à peu près 2500 logements produits par an, et c'est à peu près 60% de la production réalisée sur la région centre, sur les trois grandes villes principales.
Le reste de la production est assuré par qui, Yvain ?
Alors, soit des promoteurs qui ne font pas partie de la fédération, soit des petits intervenants qui font une ou deux opérations par an et qui sont pas encore affiliés à la fédération, mais notre travail c'est justement de les faire venir parce que la fédération ça permet d'avoir un message commun, d'avoir des outils communs et de pouvoir promouvoir les bienfaits de notre métier.
Mais justement, Yvain, en pourcentage, vous représentez combien de promoteurs au niveau de la fédération
nationale? Au niveau national, on est à peu près à 80%.
Ouais.
On est à peu près 80% de la production de logements neufs au niveau de la FPI nationale.
Oui, donc ce qui est quand même une colossale, part non colossale. Négligeable. Quels sont les apports, si on devait dire en deux mots, les avantages pour un promoteur d'intégrer en fait la fédération? C'est des outils partagés, j'imagine, une base data aussi?
Alors, si pour un promoteur immobilier, l'intérêt d'avoir de participer à la FPI, c'est d'avoir des outils en commun. C'est-à-dire qu'on a des plateformes de veille qui nous permettent d'avoir des outils de juridique, des outils de statistiques, des outils d'appui sur les nouvelles lois, les futures lois, les différents process, parce qu'on est dans un métier qui est très compliqué, qui est très structuré, avec beaucoup d'échanges avec l'État, et donc beaucoup de documents à fournir. Et puis surtout, on construit des logements qui vont avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, et du coup on est très surveillé et très encadré, donc c'est normal que ça soit un peu compliqué, mais la fédération permet d'être à jour et d'être à jour sur toutes les lois et tous les règlements qu'on doit avoir.
Et le rôle de président du coup consiste en quoi?
Alors, au sein de la Fédération Centre-Val de Loire, on a un président, donc j'ai la chance d'être président de cette fédération. Après, j'ai des vice-présidents qui sont en charge chacun, qui ont un portefeuille qui est des métropoles. Donc, j'ai trois vice-présidents. Il y en a deux qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, Olivier qui est en charge de, non seulement il est trésorier de la fédération, mais il est également en charge du Loiret. Et Bruno Père qui est en charge de la Touraine. Et du coup, le principe, c'est de pouvoir échanger avec les élus sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au sein de la fédération. Si je prends un exemple très particulier, qui est très du moment, c'est que pendant la période, le premier confinement du Covid, tous les chantiers tout s'est arrêté brutalement d'un coup d'un seul. Et la première chose qui a été relancée, le premier secteur qui a été relancé, c'est les chantiers. Et du coup, il y a eu un gros travail de la fédération et des différents acteurs de la fédération avec les fédérations locales pour pouvoir redémarrer très vite, puisqu'au bout d'un mois, on a réussi à redémarrer 95% de nos chantiers.
Oui, puis gros travail de négociation avec le gouvernement, le protocole, etc., quoi.
Alors, en général, oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, puisque sur le Covid, moi, je voulais mettre en valeur les forces locales, parce qu'en fait, si jamais on a réussi à redémarrer les chantiers, c'est parce que toutes les fédérations, tous les acteurs du logement ont réussi à se parler pour trouver les méthodes les plus sécures pour pouvoir redémarrer les travaux dans cette période de confinement. Donc ça, c'est bravo aux acteurs locaux, aux équipes locales. Au niveau du plus national, il y a beaucoup d'échanges avec le gouvernement. Et puis d'ailleurs, ça me permet de venir sur le sujet du plan de relance qui a été fait suite au Covid, où la promotion, on a un peu le logement neuf, on a considéré qu'on était un peu le parent pauvre du plan de relance. Les grands oubliés, exactement, les grands oubliés. Mais
les sacrifiés, chiffres, même on pourrait dire presque. Non, mais c'est vrai.
J'ai l'impression qu'on se rattrape. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience.
On est là aussi pour justement dire permettre les choses, ouais. se mettre en avant ce savoir-faire et puis le faire savoir, parce que je crois que vous avez des choses à dire. Donc.
Oui, donc sur ce plan de relance, on a été vraiment oublié. Et d'ailleurs, les chiffres que l'on annonce depuis un an sont malheureusement très mauvais. On peut dire quand même qu'on a quand même moins 40% de mise en vente sur l'année 2020. On arrive au niveau d'il y a 20 ans, hein, pratiquement, de mise en vente. On est à moins 30% sur les réservations. On a un recul de 5 ans sur les réservations. Et du coup, quand il y a eu sur le plan de relance de 100 milliards, on s'est senti oublié. Et du coup, il y a eu beaucoup d'actions de la fédération et de notre présidente Alexandra François-Cluzac pour échanger avec Madame Vargon sur le fait qu'on était oublié. Alors, il y a des choses il y a eu une prise de conscience de Madame Vargon, hein, c'est clair. Il y a eu des éléments réconfortants sur le fait que le PINEL et le PTZ étaient prolongé hein, pendant 4 ans, donc ça c'est rassurant. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour rattraper ce retard et mettre en place des solutions pour que justement ce plan de relance soit mis en place. Un petit chiffre pour qu'on comprenne bien les choses, sur l'année 2020, il y aura au moins 50 000 logements en moins autorisés en nombre de permis de construire.
On va revenir sur ces chiffres dans le détail dans quelques instants d'ailleurs, parce que c'est vrai que la ministre du Logement, Madame Vargon, était sur Radio Immo ces dernières heures, ces derniers jours, et on a beaucoup évoqué justement ces chiffres, et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les mêmes chiffres non plus, donc on s'y perd un peu, mais on va y revenir tout à l'heure. Moi j'avais une toute petite question avant qu'on passe à la suite, parce que vous parliez de la crise Covid, de ses conséquences conséquences. Est-ce que cette crise Covid, très clairement aujourd'hui, dans votre secteur, donc dans la construction du neuf, est-ce qu'elle a des conséquences sur l'emploi ?
Alors, la crise Covid. Alors, je pense que la crise Covid est un révélateur du mal-être du logement neuf. La crise Covid, en fait, elle a eu lieu au moment où il y avait les élections municipales. Et en fait, à chaque élection municipale, c'est classique, on a une baisse de 20 à 25% de la production de logements neufs, enfin, d'autorisation de permis de construire. Là, sur cette crise, les élections municipales ont eu un impact de l'ordre de 43% sur les autorisations de permis de construire. Donc, elle a été révélateur de cette crise. Et quand je reparle des 50 000 logements, pourquoi je parle de 50 000 logements en moins sur 2020, qui est une réalité, on sait que pour un logement neuf autorisé, c'est à peu près 2,5 emplois sur la durée du programme en emploi. Donc, ça veut dire que 50 000 autorisations de permis de construire en moins, c'est mathématique, c'est 130 000 en logements en moins.
5 000. Non, mais je me demandais ça parce que j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, absolument dramatique, hein, évidemment, puisqu'il y a les premiers sans-abri Covid, on les appelle comme ça, et c'était un type qui était justement dans la construction et qui a perdu son job, qui a perdu son appartement par la suite et qui aujourd'hui vit dans la rue à Paris. Et c'est vrai que c'est très perturbant parce que c'est d'une tristesse absolue quand même ces situations. Et donc voilà, je voulais savoir si vous aviez un chiffre précis sur le nombre de personnes dans l'immobilier et dans le neuf en particulier qui ont perdu leur job.
Alors aujourd'hui, ces 50 000 logements, ils n'ont pas eu. Enfin, il y a des impacts parce que ce pauvre monsieur, en effet, il y a déjà des tensions sur le logement, sur l'emploi. Mais aujourd'hui, ces 50 000 permis non obtenus, c'est des emplois pour demain. C'est-à-dire qu'entre le moment où on obtient un permis et un moment où on lance les travaux, il se passe une période de 6 à 9 mois. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore l'impact de cette crise. C'est-à-dire que
Alors, aujourd'hui, les entreprises ont des cartes. Yvain, on va laisser la parole juste à Olivier Henry qui souhaite faire une toute petite intervention sur ce qu'il vient de se dire. Olivier, on vous écoute.
Mais Yvain était en train de donner la réponse, mais je ne l'avais pas effectivement quand il a commencé. C'est que dans le logement, on a une inertie qui est assez forte, effectivement, entre le début d'une opération et sa livraison. Et donc, Yvain commençait à le dire, les conséquences et les catastrophes que l'on annonce, elles ne sont pas à aujourd'hui. Elles sont effectivement sur un délai beaucoup plus long.
Le raz-de-marée n'est pas encore arrivé. Il y a une période glissante qui peut aller jusqu'à 36 mois.
Oui, c'est vraiment très très long. Après, en ce qui concerne l'emploi, ce n'est pas 36 mois. On aura les premiers effets avec des abandons d'opérations, des non-constructions, effectivement, dès 2021. Mais effectivement, pour le BTP, notamment donc pour la partie construction, ça se verra assez vite en 2021.
Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de partir en voyage avec Christophe Bordet, avec qui vous avez fait connaissance, pour qu'il puisse nous présenter un petit peu votre région.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Chers amis, votre business, c'est le neuf, mais moi, lorsque j'entends Centre Val-de-Loire, je ne peux m'empêcher de voyager dans le temps et de rêver, car vous êtes une région unique, une région riche de son histoire, riche de notre histoire, la France et son architecture. C'est en Centre Val-de-Loire qu'elle est sans doute la plus prégnante. Sur les 6 départements de la région, 860 châteaux. Vous avez bien entendu, 860 châteaux, dont 120 ouverts au public. Le plus grand nombre se trouve dans le Val-de-Loire, qui traverse une partie des anciennes provinces, soit d'amont en aval, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Les châteaux de la Loire forment un tout devenu une marque, une destination hors du temps pour une histoire extraordinaire, celle des rois de France, Blois, Orléans, Tours, Chinon, Saumur avec leurs prestigieux symboles de la Renaissance et du siècle des Lumières, Chambord, Chenonceau, l'abbaye royale de Fontevraud et j'en passe bien sûr. Ce n'est pas un hasard si l'UNESCO vous a classé au patrimoine mondial. Chers amis, le neuf c'est votre dada. Oui, ça c'est évident, c'est clair, c'est net. Il faut même faire parfois du neuf avec du vieux, allier histoire et modernité. Ce n'est pas les vignerons de votre belle région qui diront le contraire. Sancerre, Pouilly-Fumé, Quincy, Pouilly-sur-Loire, côte de la charité. Tiens, bah, justement, la charité, j'ai comme l'impression qu'avec les décisions gouvernementales en matière de construction, vous êtes presque obligé de la faire. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci beaucoup, cher Christophe. J'espère que ça...
N'applaudissez pas tous en même temps. Hein.
Attendez, regardez, c'est la nouvelle mode, on applaudit comme ça maintenant
d'accord,
pour
ne
pas
très
faire
bien.
Trop de bruit.
D'accord.
Écoutez, ravi de ce petit voyage. Et ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive tout simplement la balade avec nos invités, qui sont quand même des spécialistes du secteur géographique que vous nous avez présenté et qu'on parle un petit peu donc du marché local de manière à comprendre au-delà des problématiques nationales évoquées par le président Yvain Leroy-Liberge de la FPI Centre-Val-de-Loire. J'aimerais qu'on s'attache un petit peu maintenant à découvrir les spécificités de ce marché avec ces deux métropoles, donc Tours et Orléans. Donc je vais me permettre de donner la parole à Olivier Henry sur la question, qui représente du coup plutôt le Loiret.
Oui, donc vous l'avez dit, nous sommes une région où effectivement on a la chance d'avoir deux métropoles de taille quasiment identique, hein, de plus de 300 000 habitants, et une agglomération de Chartres qui approche les 100 000 habitants. Donc c'est effectivement les trois villes principales où le marché de la promotion s'établit, hein, puisque sans être technique, mais ce sont les trois agglos qui sont en bénéfice du Pinel zone B1, donc ce qui est une cible assez importante pour nous promoteurs immobiliers, hein, puisque plus on s'éloigne des métropoles, plus on a un milieu rural et moins dense, et effectivement la maison vient remplacer la promotion immobilière. Hein, plus on s'éloigne des villes, plus vous voyez de maisons et moins d'appartements et d'habitations collectives.
Voilà. Et sur ces deux villes, du coup, est-ce qu'elles ont un comportement similaire ou est-ce que vous remarquez des différences ?
Alors oui, des différences qui sont très très marquées d'ailleurs, puisque Yvain a parlé du marché national en indiquant deux ratios importants, deux indicateurs importants pour nous qui sont les mises en vente et les ventes. Hein, et la résultante des deux fait l'offre commerciale. C'est mathématique. Donc, on a la métropole d'Orléans qui se comporte mal, comme le marché national, hein, avec des chiffres assez catastrophiques, hein, moins 44% de mise en vente et moins 44% de vente. Les deux chiffres sont, enfin, les deux pourcentages sont quasiment identiques. Ce qui a un seul bénéfice, c'est que l'offre commerciale reste stable, par définition. Voilà, et devient pas aussi pénurique qu'elle l'était avant la crise sanitaire ou avant les élections municipales. Donc on a plutôt un marché orléanais qui suit la tendance nationale dans ces chiffres. On a un marché de Chartres qui est intermédiaire, avec des chiffres à moins 32 en mise en vente et moins 9 en vente, donc qui se maintient plutôt. Et à l'inverse, on a un marché de Tours qui, jusqu'à présent, alors je parle juste, le mot jusqu'à présent est important puisque l'année, elle est finie effectivement facialement, mais nous n'avons pas encore les chiffres définitifs de l'année. Donc, ce que je vous donne, c'est sur les trois trimestres de l'année.
Voilà. D'accord.
Mais sur les trois trimestres de l'année, on a effectivement un marché qui, lui, est en plus. Aussi bien sur les deux indicateurs. Donc on a quand même.
Donc on est sur Tours là. Hein.
Là
oui, on est sur Tours.
Tour. Oui.
Ouais, on est sur Tours. Avec un marché de plus 23% en mise en vente et plus 12% en vente.
Est-ce que ça c'est dû, parce que c'est intéressant Tours quand même. On a dit ces derniers mois, ces dernières semaines, que beaucoup de Parisiens choisissaient de partir de Paris, non seulement pour aller à la périphérie, mais aussi pour partir vers des villes comme Tours, parce qu'en TGV, en une heure de train, même pas, c'est réglé, quoi. On est à Paris. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de Parisiens qui partent, ça a une influence sur le marché à Tours, justement, sur la demande ?
On a toujours eu ce dilemme avec l'effet TGV que Orléans n'a pas,
ouais,
par définition, puisque la fameuse ligne POCLE se fera sûrement jamais, hein, Paris, Orléans, ouais, Clermont, mais voilà. Mais effectivement, l'effet TGV joue, hein, surtout que malheureusement, Orléans est desservie par une ligne Austerlitz-Orléans qui n'est pas la plus performante, hein, qui est en travaux d'ailleurs. Ouais. et qui met 1h15, donc soit le même ratio que Tours, qui est pourtant à 150 km plus éloigné de Paris. Donc effectivement, allez-y.
Oui, allez-y, je vous en prie. Terminez votre phrase.
Non, voilà. Donc, il y a effectivement cet effet qui a toujours penché, enfin, qui a fait pencher toujours un petit peu la balance pour Tours, mais qui avait tendance à se rééquilibrer depuis 4-5 ans, du fait effectivement du Grand Paris, du fait vraiment de la proximité d'Orléans par rapport au fait que la région parisienne descende de plus en plus. Ça a commencé à se rééquilibrer. Et là, on remarque cette année, effectivement, des ratios qui s'inversent.
Est-ce que Bruno pourrait nous confirmer ou nous infirmer ce que vient d'annoncer Olivier ?
Alors moi, l'effet TGV, je pense qu'il est plus présent pour l'immobilier ancien. C'est-à-dire l'effet Covid, je veux dire. C'est-à-dire que les gens qui, suite au Covid, ont voulu quitter la région parisienne, ils ne vont pas attendre 18 mois, 2 ans qu'on ait construit nos immeubles pour déménager. Ça s'est plutôt reporté sur l'ancien, et l'ancien à Tours s'est bien tenu aussi.
Par contre, c'est vrai que vous avez un patrimoine assez riche, architectural, hein. Assez riche. Et c'est marrant parce que je fais le parallèle. Hier, on entendait dire que les gens qui sont cibles en fait, pour la rénovation, la transformation des immeubles sont vraiment des jeunes et des CSP+. Donc, ces gens qui potentiellement peuvent se dire
on les moyens, on achète quelque chose à la fois de bouger on le et restaure. On les moyens financiers aussi.
Exactement.
Oui, mais même l'ancien classique, qui n'a pas besoin de travaux, c'est bien vendu. L'attrait de Tours pour le neuf, c'est plus une bonne rentabilité locative, je pense. C'est-à-dire que Tours a une belle image, c'est une ville universitaire, il y a 30 000 étudiants qui sont dans la ville, c'est une ville qui est bien desservie, qui est proche de Paris, il y a le TGV, et par contre, les prix de vente sont bien inférieurs à ce qu'on peut trouver à des villes comme Nantes ou Rennes. Nantes ou Rennes vont tangenter les 4 000 voire 5 000 euros le mètre carré. On n'y est pas encore à Tours et donc ça permet aux gens de faire un investissement locatif moins cher et donc avoir une meilleure rentabilité parce qu'on est aussi en zone B1 et donc les loyers Pinel sont équivalents à ceux de Nantes ou Rennes.
Vous êtes à combien à peu près, juste pour une idée comme ça, du prix au mètre carré
sur Tours ? Le prix moyen dans l'agglomération de Tours, c'est 3 600 et quelques euros parking compris. Ça fait 3 400
par parking compris.
Parking compris.
On va vite investir à Tours, je pense.
Bah, n'hésitez pas, hein, quelque chose à vous proposer.
c'est vrai que ça donne envie. Alors, il y a des tensions de marché, hein, on l'a soulevé. Le marché est quelque peu difficile du fait de la conjoncture. Est-ce que pour un promoteur local, c'est compliqué aujourd'hui d'être dépendant d'une politique d'urbanisme unique ? Est-ce qu'on est obligé de regarder ailleurs ? Est-ce qu'on est obligé de se diversifier et d'aller envisager des chantiers un peu plus loin que son secteur local ?
La question est posée à qui ?
Peut-être. Alors, vous allez en parler tous les deux, mais allez, je tranche. Olivier, allez-y.
On l'avait évoqué un petit peu ensemble. On voit qu'effectivement, l'urbanisme, la construction est, d'un point de vue politique, vu de façon des fois de façon assez sévère et de façon assez contrastée. Donc, il est clair que dépendre d'une seule localisation peut être dangereux pour notre profession. Hein, on a des fois des mouvements de stop and go, hein, c'est-à-dire effectivement où on décide d'arrêter la construction parce que on considère que c'est pas écologique, qu'on construit mal, enfin voilà. Et donc dépendre d'une seule commune ou voire même d'une seule métropole, puisque maintenant nous avons des PLU qui sont relativement métropolitains, hein, ça arrive. Hein, les communes auront de moins en moins de choix propres et le PLU sera de plus en plus globalisé. Donc dépendre effectivement d'un seul marché peut être assez dangereux s'il y a un revirement de bord qui peut être assez fort. Donc, alors c'est pas un conseil hein, puisque nous le faisons tous, mais effectivement nous essayons d'aller voir nos marchés voisins pour effectivement avoir un portefeuille produit, comme on pourrait dire en business, qui soit assez varié.
J'avais une question, alors ça peut être Olivier qui répond ou bien Yvan Leroy Liberge. Est-ce que franchement aujourd'hui, disons les choses clairement, est-ce que aujourd'hui vous êtes de plus en plus, on a parlé des municipales tout à l'heure, très bien, elles sont passées, est-ce que vous êtes de plus en plus emmerdés par des maires qui ne veulent pas, il faut dire les choses, qui ne veulent pas accorder les permis de construire? Alors, parce que l'écologie, parce que je ne sais quoi. Bon.
Alors, je ne vais pas employer ce terme-là, mais effectivement, la baisse des permis, de toute façon, la commande politique, c'est eux qui signent. Hein. Donc, s'il y a une baisse de permis, il y a obligatoirement un lien de cause à effet.
Mais est-ce que ça se ressent dans vos villes, dans le centre Val-de-Loire, par exemple? Est-ce que clairement, c'est quelque chose qui apparaît, mais de manière évidente?
Oui, alors c'est évident et on nous l'a expliqué, puisqu'effectivement, nous sommes allés rencontrer effectivement les politiques hein, pour les avertir et pour essayer de comprendre. Et eux-mêmes indiquent recevoir une pression très très forte des riverains, c'est-à-dire qu'on a un gros problème de... on a construit, mais on veut plus de voisins. Voilà, c'est-à-dire quand on voulait construire, on voulait avoir son permis, mais maintenant qu'on a son permis et qu'on est habitant, on veut plus avoir de voisins. Et effectivement, il n'y a pas une seule instruction de permis, et là je parle pour les politiques, en me mettant à leur place, qui est facile. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura une association, un groupe de riverains qui ne va pas vouloir que l'opération se fasse. Donc, ils sont pris un peu entre le marteau et l'enclume, hein, pour parler...
Est-ce qu'il faudrait que l'État et le préfet, par exemple, à un moment, interviennent et disent c'est comme ça et c'est pas autrement?
Alors, la fédération a communiqué là-dessus, effectivement, en invitant les préfets à taper un peu du poing sur la table en disant ça suffit, on peut pas laisser le logement neuf comme ça, et on peut effectivement, on voit que 50 000 logements, si ça se transforme en 75 000 sans logements, il va y avoir une crise. Donc effectivement, il y a une prise de conscience politique, effectivement. Mais d'un point de vue local, c'est assez compliqué à gérer parce qu'il y a l'électorat et il y a le marché de l'immobilier neuf. Voilà. Et il faut jongler entre les deux.
Bien sûr, et c'est toujours difficile d'en parler sans langue de bois. En tout cas, merci pour cet éclairage, Olivier. J'ai une petite question en lien avec ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous pensez que la digitalisation, les permis de construire numériques, l'accélération de cette digitalisation va quand même permettre d'améliorer les choses, Bruno?
Alors oui, on peut espérer que ça... D'abord, on peut espérer que ça nous évitera de produire autant de papier qu'on en produit à l'heure actuelle, parce qu'un permis de construire, c'est modificatif, c'est en beaucoup d'exemplaires, c'est beaucoup de pages, et on peut espérer que ça nous permettra de diminuer cette quantité de papier produit. On peut espérer que ça nous permette aussi de travailler plus rapidement. On sait que les processus administratifs ont besoin de temps, et c'est normal, parce qu'il faut que la décision prise soit conforme à l'intérêt général, ça on ne le remet pas du tout en cause. Ce qu'on peut espérer, c'est parfois un petit peu plus de fluidité. Moi, je suis convaincu que le permis de construire numérique va entrer dans ce sens. Mais c'est ce dont parlait tout à l'heure Olivier, pas surprenant. Hein. On est dans une période où on refuse la nouvelle artificialisation des sols, on refuse la densification des centres-villes, mais on sait qu'il faut construire des nouveaux logements. Et c'est une équation qui est un petit peu compliquée, mais il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas la solution. On ne l'a pas encore trouvé, mais ça va se mettre en place. Les mairies, en général, sont à notre écoute. Quand on leur explique ce genre de contraintes, elles nous entendent. Alors, il y a toujours des exceptions, on le sait. Mais la grande majorité des maires sont plutôt à notre écoute et veulent travailler avec nous.
Eh bien, écoutez, on est ravis de l'entendre et on espère vraiment que situation va avancer, en tout cas là-dessus, sur les permis de construire numériques. Alors, il nous reste que très peu de temps, je vous avais prévenu, hein, ça passe très très vite. On est plutôt frustrés de ne pas pouvoir parler de tout ce dont nous souhaitions parler. Néanmoins, je voudrais terminer sur la RE 2020. Il fallait choisir entre Pinel et la RE 2020. Je vous propose deux mots sur la RE 2020. Est-ce que vous avez, en deux mots, un petit avis à nous donner sur cette question, s'il vous plaît?
Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être...
Bruno, allez-y.
Oui,
allez-y,
Bruno, hein. Et je reprendrai après, s'il y a besoin.
Je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en place, parce que on n'est pas encore prêt, les entreprises ne sont pas encore prêtes, on sait que ça va induire des augmentations de coûts, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire.
On est à une époque... Très bien, pour vous, c'est compliqué, mais nécessaire, c'est un mal nécessaire.
Il faudra qu'on trouve des solutions.
Oui, je rebondis. Effectivement, c'est un signal très positif pour la profession, hein, puisqu'on a vu que le logement neuf était considéré comme non écologique, comme destructeur, comme effectivement de ressources naturelles. Donc, de toute façon, consommer moins de carbone, consommer moins d'énergie primaire, de toute façon, ça ne peut aller que dans le bon sens. Et je pense que ça va nous aider à redorer l'image de la profession.
Eh ben, on est ravis d'entendre un mot positif sur cette question. On a malheureusement perdu Yvain Leroy-Liberge qui a, semble-t-il, quelques petits soucis de connexion.
Il a démissionné.
Voilà, j'ai mentionné.
En direct.
Je vous remercie grandement pour tous vos éclairages. J'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. Donc, merci Olivier Henry, vice-président de la FPI Centre-Val de Loire, en charge du Loiret, président de l'Observatoire du logement Cosselor, et également Bruno Père, vice-président FPI en charge du secteur Touraine, directeur d'agence Marignan Centre-Val de Loire. On vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
Merci beaucoup. Oui.
Très bien. Et ben, on vous dit à très bientôt dans cette émission pour un prochain Hebdo des Régions.
L'Hebdo des Régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.